Or et l'amour d'une jeune catin. Auteur Michel Alarcon. Prélude. En dépit du ton un peu cavalier de l'aventure, en général cette histoire repose sur la pertinence de l'intrigue des propos que je désignerais comme un peu trop branchés sur des événements surprenants et inattendus, des péripéties et des actions dont l'issue resta incertaine, voire même risquée, cela bien sûr dans des liaisons amoureuses sans investissement sentimental important en amour. Dans ce récit, on peut même dire que j'interpelle le lecteur pour ne pas le priver de vivre mentalement l'aventure et le désagrément dont les conséquences restèrent incertaines pour Michel, des histoires qui peuvent même être également considérées comme des meurtrissures. Bien que l'arbre du bien et du mal représenté par Adam et Ève ait autorisé cet homme à aimer la femme et l'amour, il favorisa tout au long de ses aventures les plaisirs de la chair face à la bonne morale bourgeoise, aussi ses arguments sur l'amour restèrent alors des banalités même si on peut trouver qu'ils ne sont franchement que des actes un peu nomades ou vagabonds. Cet homme instable errant sur les chemins de l'incertitude ne suscita en lui ni désarroi, ni aucun sentiment de solitude ou d'abandon dans les situations dangereuses qu'il connut. Michel, ce garçon dont il est question dans cette histoire, sut toujours apprécier l'amour dans son originalité avec ses femmes ou jeunes filles perdues, parfois même innocentes mais authentiques, surtout celles qui s'adressaient à lui pour satisfaire leurs fantasmes. Quoi qu'il en soit, ces femmes jeunes ou moins jeunes surent récompenser ses efforts, mais aussi elles l'encouragèrent à poursuivre son chemin de fortune. De coups de cœur en désespoir, il conserva au fond de lui l'âme de cet homme qu'elle prétendait aimer par-dessus tout, même loin de Paris pour côtoyer leur rêve d'amour à tout prix. La route était belle, Michel conduisait sa voiture en toute quiétude, il respecta la vitesse limitée à 90 km/h alors que derrière lui une voiture de grosse cylindrée lui lançait des appels code phare ainsi que de multiples coups de klaxon. Soudain la grosse voiture se mit à dépasser son véhicule alors qu'en face en sens inverse déboulait un très gros camion qui descendait la route en pente. Soudain la grosse cylindrée se déporta sur la gauche pour éviter la collision et alla finir sa course dans le petit ravin qui bordait la chaussée, comme s'il ne s'en fût rien été, le camion poursuivit son chemin alors que Michel stoppa son véhicule sur le bas-côté pour porter secours aux accidentés. Cette route secondaire était très peu fréquentée, ce jour-là, Michel ne put compter sur personne pour se rendre au bas du ravin où gisait la voiture accidentée. Il dégringola sur la pente du ravin puis il gagna l'automobile un peu fumante en craignant une explosion des carburants de l'auto. La portière côté conducteur avait été arrachée, dans l'habitacle de l'auto se trouvaient deux corps ensanglantés, le chauffeur et son passager. Entre les banquettes avant et arrière, les lanières d'un très gros sac commencèrent à brûler, Michel voulut alors stopper cette prise de feu lorsque le sac s'ouvrit laissant apparaître des liasses de billets de banque. Il s'affola à la vue de ce butin, il crut même entendre une voix lui dire « Serre-toi mon ami », il saisit une liasse de billets qu'il enfuit dans sa poche puis le regard guetteur sous crainte d'être épié il retira le gros sac de la voiture. Essoufflé il grimpa le talus qui bordait la route, le gros et lourd sac qu'il emporta ne semblait peser que le poids de la richesse. L'endroit resta bien désert, il démarra sa voiture avec son butin qu'il mit dans le coffre de l'auto. Il n'était plus question pour lui de se rendre à Genève où il avait prévu de passer un court séjour, mais rentrer à Paris pour disposer de tout cet argent et résumer un nouvel avenir généreux, très dépensier et gaspilleur. Ce prodigue garçon revint dans la capitale après avoir trouvé la fortune, son magnanime, charitable et généreux lui permettrait d'accomplir ses rêves glorieux d'amour auprès des belles parisiennes. Le gros sac de billets de banque déposé sur son lit dans son petit appartement de la rue des Sablons à Neuilly-sur-Seine laissait dégager une odeur de bonheur, pour compter cet argent liquide entassé, ces billets sous la forme d'un gros lot lui sembla une opération fastidieuse, mais les billets de 100 euros emballés d'un bracelet permettaient de lier les billets ensemble. Michel fut tenté de compter les liasses de billets, mais aussi d'y vérifier la somme d'argent contenue par liasse, mais comme convenu dans son esprit il ne douta pas des sommes emballées. À présent il lui fallait choisir la voie qui lui ressemblait pour réinventer une vie nouvelle qui s'associerait à sa chance de posséder une pareille petite fortune, dans ce concept qui exprimait la réalisation de ses rêves de cupidité, bien qu'il n'était pas avide d'argent, il fit des tas de projets. Cet événement positif améliorerait sa situation humaine de Loveboy, de Dandy ou même par extension dans son entité vivante d'aventurier, cela sans nécessairement qu'il y eût un lien de cause à effet entre la chance et la réalisation positive de ses rêves fous. Michel eut vite fait de comprendre que cet argent était destiné à une fuite de capitaux. La soustraction fiscale en faveur des banques helvétiques était fréquente car il apprit que sur cette route vers la Suisse, ce trafic était bien connu et ne datait pas d'hier. Il apprit aussi que ce trafic de capitaux s'était accéléré avec les crises européennes successives. Il savait aussi que les banques suisses ont toujours été une valeur refuge dans les périodes d'instabilité, d'autant plus que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, car ce genre de fuite profitait toujours aux banques helvétiques. Ces 3 millions d'euros contenus dans le gros sac butin d'une fraude fiscale à destination de la Suisse n'embarrassaient plus Michel à présent puisque cette fraude restait à son avantage. Il ne perdit pas confiance en lui pour jouir de tout cet argent qu'il eut vite fait de placer sur son compte bancaire. Ce soir il ne dînerait pas chez lui, il enfila un jean propre, se couvrit d'une veste bleue marine puis enduisit dans la poche intérieure de son veston quelques billets de 100 euros, puis joyeux comme un pinson, il quitta son logis. La rue qui le conduisait jusqu'au métro Sablon semblait parfumée, elle répandait une odeur plaisante des fleurs du paradis. Place de l'Étoile, il sortit du métro pour se rendre au drugstore avenue des Champs-Élysées, un endroit qu'il fréquentait bien souvent avec sa brasserie ouverte en direct sur les Champs-Élysées. Il y prenait parfois ses repas même si la carte restait une offre de repas standard. Une jeune fille un peu insouciante vint s'attabler à la table en face de lui, en vacances d'été dans la capitale. Elle aimait jouer la jeune femme émancipée, cette demoiselle fragile qui semblait très affectueuse et envoûtante séduisit irrésistiblement Michel. Dans le domaine de la morale, cette jeune femme semblait mener notoirement une vie de débauche, un comportement un peu considéré comme blâmable, voire même excessif. Avec un certain mépris, elle fuit les sourires de Michel, mais cette jeune fille, une très jolie jeune femme de condition modeste, semblait vraiment rechercher un amant. En regardant le comportement dévergondé de cette jolie jeune fille, la poésie de l'amour vint fleurter les songes de Michel. La lie de son existence de jeune femme solitaire remontait jusqu'à la surface de ses grands yeux bleus, cela n'évoqua pas vraiment son dévergondage mais malgré la cohue de ses espoirs d'amour qui se lisaient sur son doux visage, elle resta digne. Il ne put lutter contre le charme de cette fille effrontée, elle fit la belle, jusqu'au moment où Michel qui lui-même était en dehors des normes morales et sociales, se caractérisa par un excès de charme très provocateur pour séduire la jeune femme. Cette jeune et jolie personne incompréhensible ne le choqua pas, le bon sens voulut qu'il restât en observation face aux élucubrations de cette jeune fille un peu déréglée qui s'inventait les idoles de l'amour pour exister aux yeux de Michel. Il dut à son tour inventer une parade de style dans ses expressions amoureuses pour inviter cette jeune fille à le rejoindre à sa table en exerçant de la magie dans ses mots cajoleurs. L'attirance exercée par cette jeune personne provoqua en lui une sensation très agréable, le fait d'être une jolie fille gracieuse donna des idées à cette jeune femme qui témoigna d'un bon sentiment pour se faire aimer de Michel. Le joli portrait de Michel bien souriant, révélait tout de même les traits de sa personnalité de Loveboy, celui d'un homme charismatique, à la fois digne et humble, mais les choix de sa vie d'aventurier restaient malgré tout très étonnants pour la plupart du temps, cela en disait long sur les valeurs de son comportement amoureux. Enchantée par les sourires de Michel, elle s'attabla face à lui, mise en confiance dans cette rencontre, la jeune fille somme toute très coquine n'arrêta pas de lui vanter ses théories issues de la femme fatale afin de n'accepter uniquement que le seul plaisir de dîner avec Michel, mais elle ne perdit pas de vue que cet homme pourrait répondre à ses attentes de femme afin d'exister à l'image des Parisiennes émancipées. Après un copieux repas, ils décidèrent d'aller faire quelques pas sur l'avenue des Champs-Élysées, la démarche un peu chancelante de Caroline ne l'empêcha pas de livrer à Michel sa situation désespérée de grande solitude. Elle lui parla de son enfance de petite fille orpheline passée en Auvergne dans le Cantal à Aurillac, mais aussi de ses grands-parents qui l'élevèrent jusqu'à leur disparition où elle dut organiser sa vie à grande peine. Michel l'interrogea sur ses ressources pour assumer sa vie car elle lui sembla un peu perdue en décrivant son parcours de jeune fille solitaire, Puis elle lui promit alors de lui dévoiler un grand secret qu'elle hérita de son vieux grand-père, mais elle voulut au préalable mieux connaître cet homme à qui elle venait de confier discrètement, secrètement une confidence incomplète dans laquelle elle ne se livra pas vraiment pour ne pas être usurpée. L'intrigue ne compliqua point leur amitié, mais Michel voulut comprendre ce forfait qui n'était pas ou ne devait pas être connu d'autrui, ce mystère caché, invisible qu'elle ne voulut pas facilement livrer à ce garçon, cet homme un peu trop caressant, qui faisait preuve d'affection, de flatterie pour la séduire évidemment. En toute discrétion, il cessa cette discussion autour de cet événement secret qu'elle gardait en elle. Le mystère de sa vie la rendait encore plus belle, il ne voulut porter atteinte à la confiance qu'elle lui témoigna, ni souiller moralement leur amitié. Caroline se mit à bâiller, la fatigue commençait à se faire ressentir, Michel lui demanda où se situait l'hôtel où elle prit une chambre pour son séjour à Paris, elle lui expliqua que lors de son arrivée gare du Nord elle avait trouvé une chambre dans un minable petit hôtel. Fût-ce possible de laisser cette demoiselle sommeiller dans un logement misérable, peut-être même sans hygiène dans ce quartier aux rues insalubres qui était un nid de mauvaise fréquentation. Il lui proposa de récupérer ses affaires à l'hôtel en la conviant à résider pour son séjour chez lui en toute amitié, la jeune fille ne refusa pas son offre d'hébergement. Après avoir réglé la note de l'hôtel, ils prirent un taxi qui les conduisit rue des Sablons à l'appartement de Michel. Décontractée, elle déposa son sac de voyage à ses pieds, puis prit place sur la banquette en regardant Michel se dévêtir de sa veste magistralement, même que cela la fit sourire de nouveau. « Sais-tu cuisiner ?» lui dit-il, elle se redressa avec grâce mais aussi avec un caractère de grandeur qui suscita chez Michel le respect et l'admiration, puis ils gagnèrent la petite cuisine, Michel lui dit alors, « Voilà, maintenant à toi de nous concocter un petit repas sur le pouce », elle lui sourit en prenant sa besogne de jeune femme d'intérieur. Lorsqu'ils finirent de dîner, ils vinrent prendre place sur la banquette, Caroline croisa ses jambes blanches, ce qui éveilla chez Michel des sensations libidinales, mais il dut se garder de ne rien laisser paraître de son émoi. Il lui offrit une boisson peu alcoolisée, puis il aborda le sujet de son grand mystère, celui dont elle s'empressa de lui conter. Son discours s'abattit sur Michel comme le produit de l'action de la foudre dans un terrain où ses rêves d'aventurier avaient leur place pour de grands événements très surprenants et inattendus, des péripéties dont l'issue restait incertaine, risquée mais tout de même enthousiasmante, une histoire sans aucune liaison amoureuse et sans investissement sentimental. Caroline lui expliqua d'une voix tout feu, tout flamme, chaleureuse et triomphale, le secret que lui confia son grand-père quelque temps avant sa disparition. Il était un montagnard qui aimait parcourir les cours d'eau qui dévalaient les montagnes volcaniques, il était aussi un homme très cultivé qui s'intéressait à l'histoire des Celtes, Gaulois et Romains qui occupèrent les flancs des volcans jadis. Au cours de l'une de ses expéditions montagnardes, lui dit-elle, il découvrit les restes de ruines d'un soi-disant temple qu'il avait attribué aux Romains ainsi que de vastes salles dans une caverne proche d'un petit cours d'eau, il y découvrit aussi des vases de terre cuite remplis de poudre d'or, puis toujours dans cette caverne il y découvrit une autre salle avec un mobilier de pierre qui servait à la frappe au marteau des monnaies. Elle lui expliqua aussi que le vieil homme s'était enquis par la suite de s'instruire sur l'occupation antique des lieux, il apprit ainsi que les hauts cours d'eau descendus des volcans charriaient l'or du magma des volcans et que les civilisations antiques avaient su exploiter cette manne aurifère. Il apprit de même que l'Auvergne comptait de nombreux dolmens mégalithiques de l'occupation celte, le vieil homme avait lu dans d'anciens livres sur l'Auvergne qu'au néolithique, les industries de la pierre atteignirent leur apogée et que dès la protohistoire, l'or était connu des premiers habitants des cavernes. Les occupants de ces lieux laissèrent dans la caverne un outillage qui confirmait un embryon d'intelligence pour le travail des minéraux et des métaux riches, puis dès l'Hallstatt, premier âge du fer, ils connurent l'exploitation des richesses crachées par les volcans, ensuite le bronze final qui se situait de 1200 ans à 700 ans avant notre ère leur permit un outillage plus adapté pour l'orpaillage qui attire toujours les chercheurs d'or dans la haute vallée de la Dordogne et de l'Auvergne des volcans. À l'évocation du récit de cette caverne qui abritait l'or des volcans d'Auvergne découverte par son grand-père, Michel se mit en tête d'élaborer un projet afin de récupérer ses richesses. paré d'une figure d'excellente, il ne lui jouait point une comédie dramatique mais les plaisirs de l'aventure vers l'or car il savait bien que les volcans d'Auvergne charriaient des paillettes d'or et des minéraux dans le lit de quelques rivières. Michel avait lu dans un livre du Romain Tite Live que les volcans d'Auvergne abritaient des gisements aurifères depuis l'Antiquité, comme en témoignent de nombreux écrits lointains, voilà pourquoi depuis la nuit des temps, les chercheurs d'or sillonnaient ces lieux volcaniques. Plus qu'une aventure, son projet reposait sur le métal précieux, ce fut certainement pour cette raison que Michel fut aussi très séduit par cette aventure, malgré tous les risques encourus, ses richesses aurifères le fascinèrent. Caroline, cette fille aimable et adorable, ne fut point surprise de la fougue de Michel provoquée par cette nouvelle perspective de s'enrichir, même que l'émotion intense le fit parler avec enthousiasme de cette aventure. La jeune fille joyeuse et exaltée se rapprocha de lui. Était-il fou, s'était-elle demandé, ce mec complètement marbré, un peu cinglé, un peu toqué devenait à ses yeux un proche aventurier qui lui permettrait d'accéder au trésor de son aïeuse et ainsi connaître l'état de ce bel héritage. Ils résumèrent leur bonheur d'être en possession de cette belle fortune, les millions d'euros des Suisses plus l'or du grand-père, mais aussi les richesses à venir qu'ils comptaient exploiter, cela les enivra. Sans aucun embarras, elle se dévêtut en prétextant qu'il faisait vraiment trop chaud, elle dévoila son corps couvert d'un soutien-gorge à dentelle fleurie, la présence d'un nœud satin sur le devant lui donnait un air de petite femme fragile. Sa petite culotte en tissu satiné avec une doublure à l'entrejambe excita Michel, cet ensemble aux tendances très sexy qui mit sa petite poitrine en valeur le fit rêver tout de même d'un amour impossible. Cependant, il ne voulut pas céder aux tentations de la chair rose de cette jeune péronnelle, mais afin de dissiper ses désirs il lui proposa de passer un séjour en Auvergne au pied de ce fameux gisement aurifère afin d'étudier les moyens de son exploitation, mais aussi de manière à récupérer l'or entreposé dans cette caverne. Elle lui apprit qu'elle possédait en héritage de ses grands-parents une petite maisonnette où elle avait grandi, un petit home modeste où ils pourraient vivre heureux. Ces dernières paroles étourdirent Michel d'une grande force, brutale et excessive, car il n'était pas question pour lui de fricoter avec cette jeune fille, seul l'or et les billets de banque motivaient son excursion avec cette petite fille un peu trop femme parfois, bien qu'un peu stupéfait, voire même effaré, sans se dérouter. De ses objectifs, il dut conclure ce voyage à Aurillac. Très cultivée, elle accédait au savoir facilement, l'influence qu'elle exerçait sur Michel faisait preuve de sa sociabilité, sa séduction persuadait Michel d'étenir le bon bout pour une aventure démesurée. La décision de partir à la découverte de ces lieux magiques où l'or les attendait fut prise sans hésitation, nos deux joyeux lurons s'empressèrent de boucler leur petite valise pour un départ proche. Le soir même, un train à grande vitesse les conduisit en gare de Clermont-Ferrand, puis ils prirent une correspondance pour Aurillac. À cette heure tardive, ils n'eurent d'autre choix que celui de finir la nuit dans un petit hôtel proche de la gare où ils logèrent dans la même chambre où un grand lit les accueillit. Elle ne fut pas embarrassée de se dévêtir une fois de plus sous le regard stupéfié et déconcerté de Michel. Pareil à un oiselet égaré, durant toute la nuit elle se blottit entre les bras de Michel, malgré la chaleur du corps félin de la jeune fille, rien ne suscita l'élan sexuel de cet homme qui trouva un sommeil apaisant dans cette étreinte langoureuse. Au cours de la journée, ils se rendirent aux archives de la ville où ils notèrent que les Celtes et les Gaulois des volcans régionaux qui maîtrisaient très bien le fer comme aucun autre peuple, mais ils apprirent aussi que les Celtes aimaient arborer avec une grande fierté leurs bijoux en or. Ces peuples se paraient bien souvent de chaînes et torques d'or autour du cou, ils portaient pour la plupart d'entre eux, des anneaux torsadés aux chevilles, de gros bracelets aux bras et une multitude de pendentifs enserrés à leur ceinture. Cette orfèvrerie exubérante et généreuse ostentatoire faisait rêver nos deux aventuriers d'une richesse colossale qui leur permettrait d'assumer leur vie financière jusqu'à la fin de leur jour. Ils comprirent très vite que les Gaulois traquèrent l'or depuis plusieurs siècles dans les rivières, mais aussi sur les flancs des montagnes et dans les entrailles de la terre, cet or massif dont ils faisaient de somptueux bijoux, pour eux-mêmes et pour leurs dieux laissait rêver nos deux compères d'une grande richesse. L'or des Celtes hantait déjà leurs esprits, surtout grâce aux écrits qu'ils consultèrent, des informations tracées depuis l'Antiquité. Les monnaies d'or celtiques parsemées dans la grotte n'étaient pas un mythe mais une réalité qui illuminait la passion de Michel dans cette aventure gargantuesque, une aventure digne des grands chercheurs de trésors. Les textes, sculptures et sources archéologiques d'un musée leur livrèrent des informations riches qui révélèrent le caractère complexe de ce trésor découvert par le grand-père de Caroline. Pour organiser leur prospection, ils s'équipèrent d'un petit véhicule, un petit monospace et divers équipements et outils que Michel régla avec son pécule bancaire bien garni de l'argent de cet événement surprenant et inattendu au cours de son éventuel voyage à la frontière suisse. Aussi leur liaison amicale sans investissement sentimental et financier important les obligea à garder une grande confiance dans cette aventure même si l'action aventureuse dont l'issue fut incertaine, risquait de les affecter d'un quelconque danger. Toujours souriante mais tout de même un peu méfiante, elle convia Michel à regagner sa petite maisonnette pour investir le lieu de leur résidence principale et y établir un espace de travail pour leurs expéditions montagnardes. Le décor et l'aménagement type chalet montagnard séduisit Michel, un poêle à bois et de nombreuses bûches rendaient la maisonnette cosy et chaleureuse, dans ce paradis l'on pouvait même profiter d'un jardin avec un espace repas et barbecue. Cette authentique maison auvergnate en pierre possédait un ancien four à pain qui se situait dans le coin inférieur de la cour. Un charmant petit village se trouvait à 3 km, ils y trouveraient tout ce qu'il leur fallait pour leurs courses alimentaires. Située sur un flanc volcanique, la montagne leur offrait un décor inépuisable, ils n'entendaient qu'à eux d'inventer leur histoire, celle qui allait avec leur rêve d'aventurier pour amasser ce trésor fabuleux. Dans une vieille remise accolée à la maisonnette, Caroline fit découvrir à Michel toutes les trouvailles que son grand-père avait récupérées dans la caverne. 3 grands pots de terre cuite contenaient des poudres et de nombreuses pépites d'or, Michel ne put en croire ses yeux tant cet or massif brillait sous le rayon de la torche de Caroline. La torche que Caroline tenait en main s'éteignit soudain, la jeune fille se blottit alors contre lui en lui disant « Serre-moi fort dans tes bras », mais il ne voulut s'engager à prendre part à une dépendance amoureuse commune avec cette jeune femme audacieuse afin de ne prendre aucun engagement amoureux, ce fut le prix à payer pour ne donner que son adhésion à la conquête des biens aurifères de cette aventure. Elle partit en courant dans la maisonnette se réfugier dans sa chambre où il vint la retrouver, la jeune fille en pleurs lui dit alors, « Tu ne m'aimeras donc jamais », mais pour Michel l'amour avec cette jeune demoiselle restait un thème à la fois délicat et impossible bien que sa libido s'enflammait facilement devant la grâce très subjective de Caroline, ils se comprenaient, mais jamais de la même manière, même si à propos d'amour, à travers ses paroles chargées de désir elle laissait apparaître sa propre vision personnelle du bonheur. Heureusement, Michel sut toujours interpréter les émotions de cette fille même lorsqu'elle osait s'exhiber en parfaite pécheresse, ses désirs qu'elle cachait parfois derrière sa voix enfantine le laissaient tout de même un peu rêveur. Il existait donc pour cette jeune fille une infinité de manières de parler d'amour, en choisissant ou non de se livrer totalement comme une jeune femme accoutumée aux difficultés avec l'amour et les hommes. Au travers de sa parade de séduction, elle choisit pour sa part de se révéler à Michel comme une jeune femme glamour sans dissimuler ou feindre ses émotions, car sa vision plutôt optimiste de l'amour bouillonnait en elle, elle cherchait à découvrir l'amour véritable grâce à leur histoire palpitante de chercheurs de trésors. Passionnante, elle aimait bien jouer la comédie romantique pour raconter avec beaucoup de douceur son besoin d'aimer car à vrai dire ses larmes étaient conçues pour étancher sa soif d'amour, sa parade lui servait aussi à rêver d'amour dans cette belle histoire d'aventurier qui les conduisait en héros très attachants pour s'aimer follement un jour prochain, très émue, ses rêves fous la transporta incontournablement vers Michel qu'elle vénérait déjà comme le prince de son enfance, aussi elle s'adressa à lui en ces termes, « Vous êtes vraiment bien trop généreux pour vous jouer de moi même si vos sentiments à mon égard sont encore instables, dites-le-moi franchement Michel car mes désirs, mon affection pour vous n'ont point changé depuis notre rencontre, un seul mot de vous changera ma vie. » Bien que le sang bouillonnait à l'intérieur de lui, les mots de Caroline ne suffirent pas pour lui donner envie de mordre dans l'amour de cette jeune fille, cet amour qu'elle voulait lui partager. Caroline croyait que tout fût possible, elle pensait sans cesse à lui le matin, le soir, elle se saoulait de mots d'amour pour attirer à elle cet homme qui lui offrait un effet contraire à ses attentes d'amour, elle aurait tant aimé faire autre chose que penser à lui, mais elle n'y parvenait pas. Oser l'exhibition n'était pas un problème pour elle, elle frissonnait surtout lorsque Michel la déshabillait des yeux, aussi pour répondre à une envie pressante de faire l'amour ou un câlin, elle défiait facilement les règles de la morale très simplement en portant une jupe courte sans culotte pour exciter Michel. Elle ne manquait vraiment pas d'audace dans ses exhibitions érotico-amoureuses pour augmenter l'adrénaline chez Michel, cela lui garantissait d'être admirée par son compagnon pour l'inspirer à lui donner l'envie de lui partager quelques caresses discrètes. Pour la satisfaire, il lui proposa de tester l'amour qui l'envahissait avec un sextoy, un jouet coquin qu'il lui promit d'acheter pour calmer ses désirs fous de pénétration. Elle lui raconta alors en détail les câlins qui lui auraient fait un grand plaisir en ne lésinant surtout pas sur les mots crus en évoquant ses fantasmes sexuels qu'elle aurait voulu partager avec lui. Nul doute que Michel eut très chaud dans cette invitation à l'amour, mais ce défi risquait de déstabiliser leur projet de récupération des richesses aurifères. Il est vrai que l'ambiance tamisée de la chambre se prêtait bien à une séance érotique ou peut-être même très pornographique. Enfin, pour l'exciter, voire même perturber davantage Michel, elle fit semblant de se masturber sous ses yeux. C'était toujours pour cette demoiselle une bonne occasion pour découvrir des extases sexuelles gratuitement et être transportée hors d'elle-même et du monde sensible dans un état d'exaltation, de plaisir extrême, causé par des sentiments ou des sensations sexuelles très fortes, voire dans un état de déséquilibre nerveux proche de l'extase mystique. Calmer cette coquine demoiselle devenait pressant, il lui fallut donner de la voix pour mettre fin à sa mascarade sexuelle, mais elle ne voulut lâcher prise à cette pression car elle aurait aimé profiter de l'instant présent pour faire monter chez Michel le désir et la température, mais il ne voulut prolonger cette situation dantesque fascinante, attrayante, voire peut-être même rassurante. Ce fut alors pour lui une bonne raison de trouver la solution pour obliger sa jeune et jolie amie à contrôler sa libido dans le but de retarder un peu une probable union sexuelle avec cette jeune fille dont il aurait été dommage de se priver et ainsi pouvoir découvrir ce qui pouvait lui donner du plaisir, mais aussi les moyens de contrôler ses plaisirs qu'elle souhaitait lui donner, afin de lui faire gagner en intensité leur relation de chercheur de trésors. Le démon sexuel qui l'habitait s'enfuit lorsqu'il bouscula son esprit agité sexuellement car le seul moyen de casser ses barrières fut d'accroître sa confiance en elle pour partir à l'aventure et changer sa vie. Caroline retrouva bien vite l'énergie et l'envie de partir vers leur projet de chercheur de trésors qui lui correspondait mieux et lui permettrait de devenir bien plus heureuse auprès de Michel. Elle éprouva le besoin de changer de vie à un moment ou à un autre de son existence aux côtés de Michel, son prince aventurier. Sa crise de jeune pucelle ressembla de près à celle de ses anciennes jeunes maîtresses parisiennes, ces jeunes femmes qu'il fuyait, mais cette petite poupée l'entraîna surtout dans un espèce de tourbillon duquel il n'arriva pas à s'extraire. Il fut peut-être même au bord de la dépression ou d'un épuisement, un état dépressif de stress et de fatigue en refusant toute relation sexuelle avec Caroline. En plus d'être une jeune fille amoureuse, elle voulut retrouver Paris, capitale de l'amour et du romantisme, en sa compagnie pour découvrir les endroits coquins à son bras. Paris, capitale de l'érotisme, l'excitait, la ville lumière et ses frivolités, mais aussi la longue route du plaisir sexuel qu'elle voulut découvrir bien plus encore avec lui la rendait incroyablement coquine. Loin, très loin de l'image de jeune putain, elle provoquait en lui une sensation très agréable car elle ne lui cacha point son plaisir pour le sexe, elle ne se cacha pas non plus honteusement derrière la morale. Elle voulut connaître les nuits torrides de l'amour, les moments les plus insolites pour que le mot ennui disparaisse de son existence, son vocabulaire devint très vite celui d'une femme en manque des plaisirs de la chair. Il s'agissait pour cette demoiselle une de ses passions érotiques que de traverser les folles nuits parisiennes pour s'affirmer glamour car depuis de nombreuses années, cette jeune fille lisait des littératures érotiques, des livres d'un genre à part entière très cochon. Michel découvrit alors les mystères de sa passion amoureuse dans le berceau de sa vie tourmentée, cela lui permit de connaître tous les secrets de son âme, mais aussi les fantômes qui la visitaient. Sans peine il la suivit dans cette balade où se mêlait son histoire mais aussi le côté obscur de sa vie de jeune fille lumineuse. Cette sacrée divine jeune fille recherchait toujours la bonne occasion pour tenter sa chance en amour auprès de Michel et tenter de remporter une autre couronne pour glorifier sa propre perversion juvénile. Ses propres expériences avec les garçons ne semblaient pas lui avoir laissé de bons souvenirs, elle s'était tout de même invitée dans le cœur et la vie de Michel si bien qu'elle lui fit quelques révélations, notamment sur cette période de sa vie où elle connut quelques rumeurs selon lesquelles cette belle demoiselle serait transsexuelle. Était-ce une blague ou un coup de bluff pour chercher à faire croire l'absurde ou encore donner le change à Michel puisqu'elle sut feindre avec assurance sa propre innocence? Ses arguments sexuels restaient bien différents de son image de pucelle, malgré tout le respect pour Michel ou elle-même, elle sut séquestrer l'attention de Michel avec ses charmes de jeune pécheresse, mais l'aventure ne s'était pas arrêtée là car elle se contraignit à rester enfermée dans sa démence sexuelle. Fallait-il vraiment devoir conduire cette petite poupée jusqu'à la ville lumière de l'amour pour arpenter la capitale avec lui, avec ce garçon coquin pour des balades croustillantes de perversion, il se posa la question. Michel quitta la pièce pour se plonger dans la lecture d'ouvrages uniques que l'on ne trouvait nulle part ailleurs sinon dans de vieilles archives que son grand-père avait conservées, Michel décida alors de gagner cette satanée grotte. Le lendemain, le calme s'étant installé entre les deux acolytes, Michel décida de partir à la prospection de la caverne et ses alentours. Non loin de la petite colline où se trouvait l'entrée de la grotte, il était érigé un petit barrage fait de blocs de pierre taillés à l'ancienne qui contrôlait l'irrigation d'un petit cours d'eau qui s'écoulait en amont du site de la caverne en préservant les structures en pierre qui subsistaient encore. Il ne s'agissait surtout pas de la plus vaste grotte aménagée méconnue dans le secteur, mais cette grotte détenait un trésor, cette grotte assez proche d'une petite rivière située dans une vallée volcanique, possédait un petit piout naturel dans la roche du volcan. Le monde végétal était rare, mais l'éclat minéral constitué de roches chargées de métaux sut motiver Michel. Cette découverte étonnante de son grand-père qui s'était faite par hasard s'était révélée être en fait l'entrée d'une grotte qui concernait la préhistoire, cette période de l'histoire de l'humanité qui connut le travail des métaux avant l'apparition de l'écriture. Il ne s'agissait surtout pas d'une chambre funéraire car en allant l'explorer son grand-père comprit que celle-ci datait de l'époque antique, d'ailleurs les découvertes aurifères qu'il y fit lui donnèrent raison. Avec amour et tout l'espoir d'un grand bonheur, Caroline prit Michel par la main pour le suivre à la conquête des mystères de cette grotte. Cette cavité profonde et sinueuse mesurait plus de 10 mètres de haut sur une largeur de 50 mètres environ, elle s'enfonçait à l'intérieur de la petite montagne sur une grande longueur. Une partie de la grande salle restait sombre était réservée au four pour la fonte des métaux, puis la salle était délimitée par un mur de 3 mètres de haut. La salle du trésor était lumineuse de ses richesses aurifères que faisaient étinceler les vaisseaux de chacune des torches qu'utilisaient ses pionniers. Une construction simple faite de petites pierres plus petites que le bloc mais plus grosses que le caillou séparait la salle pour la partager en deux pièces, aussi cette cavité située dans la partie arrière d'un organe de lave éteinte était aussi entourée de larges fosses qui intriguèrent les deux aventuriers. Des bruits sourds d'effondrement se firent entendre, ils effrayèrent Caroline qui supplia Michel de se retirer à l'extérieur de la grotte pour comprendre ce phénomène, puis face à l'effroi de Caroline, Michel décida de rentrer au bercail pour rassurer sa petite amie. « A-t-on vraiment besoin de l'or entreposé dans la grotte ?» lui avait-elle demandé, puis elle rajouta, « Avec les millions d'euros des contrebandiers sur la route de la Suisse et les monnaies d'or et le métal aurifère récupérés dans la grotte, il me semble que cela suffit pour nous payer du bon temps, ne crois-tu pas ?» Ce jour encore, l'amour de cette jolie demoiselle restait entaché par un besoin de sensations fortes qui fit frémir ce Parisien pendant presque toute la journée, avait-elle envie d'une messe noire basée sur l'amour pervers ou bien encore d'un philtre d'amour poudré d'une succession sombre de fantasmes sexuels pour assumer sa libido? Ils décidèrent tout de même de se rendre à Paris de façon naturelle puisque lors de l'inventaire après leur première virée dans la grotte ils découvrirent un coffret totalement banal, une cassette contenant des monnaies d'or ce qui allait fixer leur choix de gagner Paris. Son contenu se résumait à de nombreuses monnaies or frappées au marteau. Bien évidemment, ils ne s'attardèrent pas à regagner leur gîte, mais les pires vices les plus machiavéliques dans une union illicite entre ces personnes liées par un degré d'amitié entraîna Michel à des interrogations sur le devenir de leur relation, mais elle voulut nier toutes les craintes de Michel et tenta même de se justifier en modérant son agitation. Elle lui avoua tout de même qu'elle s'était beaucoup engagée dans cette aventure, il est vrai que ses principales ambitions étaient faites de l'amour qui brûlait son sang, une passion amoureuse qui se faisait de plus en plus ressentir dans son regard. Partir pour Paris pour retrouver un peu de calme après cette affaire qui se perpétuait par le biais d'un important capital financier s'avérait n'être que la partie émergée de l'iceberg qui cachait leur relation amicale sous un voile de sentiments non exprimés. Il semblait surtout que son désir de gagner la capitale provenait en grande partie de l'idée de savourer avec Michel les bienfaits du sexe et s'attirer les faveurs des forces du mal, mais à vrai dire, son récit n'était qu'une messe à l'envers ayant pour but de susciter une relation démoniaque avec Michel. Devant ce projet de se rendre à Paris qui prenait de plus en plus d'importance, il lui était impossible de discerner si ses aveux étaient authentiques ou de simples affabulations révélées sous la torture de sa libido. Quoi qu'il en soit, la beauté et la jeunesse de Caroline ordonnaient à Michel de croire à une grande aventure car son histoire d'amour riche en rebondissements semblait loin d'être terminée. Sa féminité marquée par des expressions de femme divine restait le point de départ de l'aspect le plus scandaleux de leur relation, elle lui confessa alors sans pudeur qu'elle avait des révélations importantes à lui faire, notamment concernant son besoin d'amour sans se rendre coupable de perversion sexuelle, elle lui avoua que son libertinage n'était qu'un savant mélange de l'esprit révolté et bohème de sa vie de pucelle qui savait avoir des mœurs légères à la rencontre d'un grand amour. Même si ses folles dinguémoises et sa perversion remontaient à plusieurs décennies, ils continuèrent à l'habiter tout au long de son contact auprès de Michel, le temps n'avait pas de prise sur elle pour comprendre qu'il n'y avait rien d'anodin dans son comportement amoureux, cette adolescente n'était vraiment qu'une jeune adulte qui aimait provoquer l'emballement des cœurs mais elle occupait malgré tout, une place toute particulière dans cette belle aventure. Il lui fallait libérer de ses pensées la tendresse de cette jeune fille espiègle, cette gosse qui illuminait son aventure car elle savait bien se liguer pour fomenter des troubles insensés chez Michel, toujours un peu rebelle, elle pratiquait fort bien une insurrection pour se soulever contre le pouvoir de Michel, le sentiment de vouloir faire l'amour avec lui pour la première fois provoquait en elle un tel émerveillement que les mots d'amour dont elle rêvait gardaient durablement au fond. De son joli cœur de grands effets démoniaques, mais ses émotions qu'elle ressentait modulaient la manière dont les événements s'inscrivaient dans sa mémoire juvénile. Caroline savait très bien mémoriser les plaisirs du sexe d'autant plus les situations où elle trouvait de riches émotions positives ou négatives qui l'emportaient au septième ciel, c'est pourquoi Michel aimait beaucoup son visage d'ange qui lui confiait être le reflet d'un amour aussi intense que les lumières du bonheur. Cette demoiselle était une adepte de l'amour pervers, elle avait envie de varier les plaisirs sexuels à sa guise, il lui était même tout à fait possible de pimenter sa passion pour le sexe en s'abondant corps et âme au plaisir de la chair pour décupler sa jouissance démentielle. Allongée sur le dos, les jambes écartées, elle aurait aimé se positionner au-dessous de lui pour être dominée outrageusement, ainsi elle aurait pu célébrer son libertinage car il s'agissait pour cette fille de faire l'amour avec Michel. Elle ne trouvait rien d'ennuyeux ou de routinier dans l'acte sexuel, tout lui était positif pour éprouver du plaisir, c'est la raison pour laquelle elle dévoilait souvent ses envies pour pimenter ses joies et décupler les plaisirs de la chair. Si elle aimait tant être un genre de catin pour apprécier l'amour, c'est parce que cette jeunette de mauvaise réputation n'avait rien de propice à l'intimité qui lui aurait permis de se regarder dans les yeux de Michel pour voir le plaisir qu'elle lui procurait puisqu'elle ne s'embarrassait que de son propre plaisir, même qu'à force de pratiquer l'amour pervers, il ne lui était pas rare de développer des réflexes un peu sataniques afin de ne pas rendre l'amour mécanique, ainsi pour prendre. Encore bien plus de plaisir, elle changeait bien souvent la dynamique de ses rapports sexuels pour les rendre bien plus sensuels. Comme dans toutes les relations amoureuses, leur complicité fut essentielle mais Caroline n'hésitait jamais à guider Michel, en lui précisant ce qui lui plaisait bien avant tout pour éprouver un grand plaisir sexuel, aussi l'importance des câlins dans leur couple au fur et à mesure de leur contact physique endiablait les animait de folles passions, Michel n'aimait surtout pas faire l'amour de la même façon chaque jour. telle une midinette parisienne de la belle époque, bon goût ou mauvais genre, Caroline s'offrait à Michel de tout son être. Cette jeune fille simple et frivole, à la sentimentalité naïve, avait une connotation divine de femme amoureuse qui enthousiasmait beaucoup Michel. Cette amourette présentait plusieurs caractéristiques qui lui donnaient une place originale dans la capitale de l'amour. Elle jouissait toujours d'une manière éperdue, intense et passionnée, c'est-à-dire qu'elle jouissait d'une certaine indépendance sexuelle. C'est ainsi que pour Michel, son pouvoir d'aimer inhabituel sembla appartenir au miracle de l'amour, car cette jeune femme d'un milieu social secondaire ne reculait devant rien pour exister. Caroline aimait beaucoup jouer de son corps, de sa féminité, de sa liberté d'aimer l'amour, mais aussi de sa vie de petite catin. Elle gardait précieusement sa liberté de pensée et d'expression pour jouir de ses envies ou de ses refus, cela avec son corps brûlant de fièvre sexuelle ou avec le corps en fusion de Michel, même que ses plaisirs féminins débordaient de sexualité sans complexe. Aussi, elle savait très bien donner le meilleur d'elle-même afin d'augmenter son plaisir émotionnel. Bien souvent, elle inversait les rôles dans ses fantasmes. Forcément, elle ne voulait pas rivaliser sur l'ingéniosité de l'amour des anciennes maîtresses de Michel. Voilà pourquoi l'amour caractérisé par sa jeunesse rendait cette midinette délicieuse, car elle bénéficiait donc d'une relative indépendance vis-à-vis de son compagnon, ce qui ne lassait pas d'inquiéter Michel, qui observait son affranchissement, car cette jeune fille émancipée était en grand danger de verser dans les tentations d'une folle perversion. Mais il lui semblait très intéressant de confronter l'ensemble de ses plaisirs amoureux avec ceux qu'elle mettait en lumière dans sa consommation féminine très populaire de l'amour. Cependant, il voyait fort bien dans ses relations avec Caroline que les problèmes moraux posés par sa consommation sexuelle de jeune femme de l'amour étaient essentiellement de nature perverse. Ses pratiques sexuelles devenaient même dangereuses. L'on pouvait dire que ses relations endiablées s'attachèrent en premier lieu à tout donner de sa folie amoureuse. Cette jeune fille restait également très attentive au plaisir charnel. Elle consommait l'amour sous toutes ses formes. Il ne la considérait vraiment pas comme une fille dangereuse pour l'ordre moral, mais il craignait de ne plus pouvoir répondre à ses exigences sexuelles devenues déraisonnables, voire même incohérentes. Elle mobilisait toujours ses meilleurs arguments de séduction pour se faire aimer de Michel. Le risque pour cet homme était celui de l'intempérance, de l'alcoolisme, à cause des tentations que lui livrait son corps de jeune fille absurde qui se livrait à un amour contraire à la raison. Le danger pour cette midinette fut bien davantage d'ordre sexuel, car sa découverte des lumières des nuits parisiennes et sa rencontre avec ces lieux des délices de l'amour, où tous ces clubs et cabarets devant elle l'invitaient à affiner sa recherche effrénée des plaisirs crapuleux qui la poussaient vers la débauche. Par vanité mais aussi par plaisir, la tentation de l'amour pervers dans les clubs ou cabarets de la capitale, lieu du danger, à cause de la mixité sexuelle et de la promiscuité de l'inconnu, invitait Michel à ne prendre aucun risque dans ses initiatives afin de moraliser sa jeune amie. L'existence perverse qui menaçait cette jeune fille un peu naïve mais romanesque dans son mode de vie l'exposait aux tentations du sexe, surtout parce que sa situation de jeune fille, de jeune catin l'exposait moralement à être entraînée et désirée non pas pour elle-même, mais pour ces choses sexuelles qu'elle confectionnait dans son esprit tourmenté par le sexe. Évidemment, elle aimait bien soigner sa toilette pour qu'elle soit bien en rapport avec les élégantes putes qui déambulaient devant les grands magasins. Ce cadre factice et débauché où elle passait les yeux grands ouverts sur ses filles de joie, l'a poussée à imaginer devoir passer encore toutes ses journées contrastées dans sa province étrangement avec la misère de sa demeure qui la fit souffrir de tout ce qu'elle avait manqué du bonheur d'exister. Elle se rendit compte du caractère enviable de la situation qu'elle vivait à présent, aussi elle chassa l'immoralité générale de ce milieu de jeunes prostituées. Cette jeune femme adolescente libre de son corps face aux folles tentations du sexe, se représentait la sexualité comme un moyen d'accès à la consommation de l'amour, puisqu'elle voulut combler le vide de son passé en se rappelant qu'elle était une jeune femme amoureuse. Sa sexualité pouvait aller du concubinage avec son homme à la prostitution, voire même être dans la position d'une femme entretenue. La prostitution lui sembla d'ailleurs plutôt son apanage, surtout parce qu'elle se sentait assez attractive pour être désirée. Ses pulsions sexuelles avec comme point commun son désir féminin, sa fascination pour le sexe pervers, sa luxure évoquait sa recherche sans retenue des plaisirs de la chair, de l'amour débauché et son goût immodéré des plaisirs sexuels dans une notion d'excès. Son immoralité sexuelle marquait sa figure de midinette aux mœurs légères, cependant, elle imposait aux hommes un profil stéréotypé de femme émancipée, aussi cette midinette aurait aimé entrer au panthéon de l'imaginaire érotique pour se donner en exemple afin de captiver pour longtemps les hommes comme un bien typique dans ce monde des plaisirs charnels, sensuels et très érotiques. Les turbulences de sa liberté sexuelle, son manque de chasteté féminine n'avaient vraiment rien de vertueux pour souligner la dimension érotique qui se dégageait de son personnage de jeune et jolie fille, de cette figure de femme légère, surtout parce qu'elle tombait bien trop souvent dans l'immoralité puisqu'elle était guidée essentiellement par la naïveté des amours sans nom, mais ses apparences très mouvementées, bien que modestes, ne trompaient jamais la gaieté de sa jeunesse. Caroline était évidemment opposée au regard du clergé et à son influence sociale sur l'érotisme et le sexe dans l'amour, ses inspirations sur l'amour jusque-là basées sur la théorie de la séduction, n'étaient pas vraiment le seul remède à l'amour puisque son style de langage raffiné et précieux était une manière d'orienter en main passage ses désirs vers les plaisirs de la chair. Cette jeune fille ne rejetait rien de ses amours qui étaient le reflet de sa non-conversion aux croyances de l'Église, elle ne rechercha surtout pas à faire une belle figure honorable, car à dire vrai, elle s'invitait agréablement aux désirs des humains et à leurs incroyables fantasmes, aussi elle caractérisait bien souvent les lumières de l'amour contre celles de la mystification chrétienne. Cette jolie mousse mais très libertine était une adepte de la liberté de pensée, elle se permettait même de s'écarter des normes culturelles, intellectuelles, morales ou sociales de son temps en se rapprochant de son esprit frivole puisque son point de vue sur l'amour était immoral. Si elle s'adonnait au plaisir charnel le diable au corps dans des rapports bisexuels hors les mœurs conventionnelles, ce n'était que pour rechercher du bonheur et de la liberté dans le lit des femmes ou des hommes. Sa perversité moderne revendiquait une grande liberté de mœurs, l'analyse de ses sentiments et des stratégies amoureuses qui en découlaient en faisait une libertine pervertie avec ses expériences amoureuses foudroyantes dont la vertu, la modération et la non-sagesse causaient la fierté de cette jolie jeune fille qui s'enflammait éperdument à la vue du sexe. Elle régnait en maîtresse absolue sur le cœur de Michel, cette ingénue ne se trompa jamais sur l'amour qu'elle croyait de son amant, ce garçon qu'elle aimait par-dessus tout, qui la rendait la plus heureuse des femmes. Elle était une jeunette frivole et se jouait de tout ce qui était contraire aux bonnes mœurs, ses paroles extrêmement libres et voluptueuses n'avaient pas toujours un caractère galant pour nourrir ses principes de courtisane, elle favorisait ses passions amoureuses dans les excès pour détrôner tous les moralistes car les moyens que sa nature perverse lui ordonnèrent fut que toute sa passion délicieuse pour le sexe dût être la seule qui puisse la conduire au vrai bonheur. Cette jeune et jolie femme très voluptueuse qui avait un penchant excessif et irrésistible pour les plaisirs sensuels dans sa vie, et dans son fou univers d'une joyeuse et très grande débauche, n'oubliait pas non plus les richesses financières qui les liaient. Caroline était une fringante espiègle, à laquelle il ne sut résister, il ne prit garde aux qualités de leur relation amoureuse, oubliant soudain le chemin parcouru depuis la découverte aurifère de la grotte là-bas en Auvergne, Michel préféra le plaisir obtenu auprès de celle qu'il tenait encore pour une divine princesse. Afin d'apaiser ses passions, elle rappela à Michel ses folles extravagances sexuelles mais aussi toutes ses excentricités dans sa conduite amoureuse qui tourna bien souvent à une orgie très débauchée et malicieuse, elle ne manqua pas non plus d'esprit pour dire que cet amour très érotique restait insignifiant par ses excès des plaisirs de la chair et qu'à présent il leur fallait rentrer en Auvergne pour jouir de leur fortune. Bien que cette initiative d'apparence légère n'alerta pas Michel sur ce qui s'énonçait sous le double couvert d'une apologie du plaisir mais aussi d'une instruction dans le rôle de coéquipière dans leur aventure de chercheur de trésors, la sensation de Caroline dans sa détermination à regagner Aurillac n'était surtout pas une protestation contre leur séjour à Paris, mais ce ne fut point par vanité, encore moins par modestie qu'elle lui exposa au grand jour son rôle dans les divers jeux coquins. Qu'elle dut jouer pour atteindre gloire et richesse. cette jeune femme que l'histoire et la fiction livrèrent à l'aventure magique de chercheur de trésors n'avait jamais rencontré un homme aussi violemment sensuel pour lui faire tourner la tête, il lui fut même impossible de ne pas s'intéresser à la variété amoureuse de ce personnage. Michel n'était pas un garçon ridicule qui voulait jouer les jeunes hommes ou bien encore les plaisantins érotiques en s'imaginant que ce monde sous les couleurs de l'amour pour les coureurs d'aventure de son genre n'avait qu'à pêcher, pour ajouter encore à sa vie de troubadour de l'amour, une belle touche à l'esquisse de son tableau d'aventurier. Cette petite frimousse semblable à une icône de l'amour présentait toujours un visage angélique pour séduire Michel mais aussi pour exprimer ses sentiments, elle ne se sentait surtout pas soustraite plus que d'autres aux passions qui l'exposaient aux tentations du sexe comme bien d'autres femmes. Le soir venu, une chaude ambiance réunit Caroline et Michel dans cette petite chambre d'hôtel, il ne leur fut pas très facile de s'aimer sous une lumière blafarde d'un néon accompagné du vacarme des automobiles qui circulaient au bas de l'hôtel, aussi pour atteindre l'orgasme plus rapidement, Caroline soigna l'ambiance de ses cris de joie, elle sut mettre de côté l'imperfection du lieu dans une parenthèse plaisir bien méritée. Michel resta très attentif au plaisir de Caroline qui se masturbait sous ses yeux, la masturbation en solo, lui permit d'accéder plus facilement à l'orgasme car elle voulut connaître en effet, outre ses nombreux moments de bienfaits, son corps pour ses plaisirs de la chair et donc, mieux cerner ce qui la conduisait à l'orgasme. Cette petite poupée insistait beaucoup sur les préliminaires pour une folle excitation de son partenaire, aussi, pour être sûre d'accéder au septième ciel, elle mit toute sa perversité en branle dans des jeux érotiques avec des accessoires en latex. Elle prit tout son temps pour dédramatiser ses actes pervers, puis elle couvrit de baisers, caresses et câlins Michel, leur plaisir monta crescendo, ils passèrent simplement de bons moments à s'aimer sans interdit, ils prirent leurs pieds à coup sûr. Pour ces deux personnages, l'amour fut toujours glorieux puisque ces instants qu'ils souhaitaient inépuisables les conduisit au paradis. Caroline était vraiment amoureuse de cet homme rencontré dans ce restaurant des Champs-Élysées à Paris puisque cet amour coquin restait toujours génial, ce fut même la meilleure expérience qu'elle vécut dans sa vie, aussi son énergie sexuelle ne tarissait jamais, pour se réapproprier son corps elle caressait sa poitrine, touchait son corps de la tête aux pieds en se massant tendrement pour apprécier les courbes et les formes de sa féminité, cela permit à Michel de redécouvrir le corps de la jeune fille qu'il appréciait pour son doux velours rose d'amour. Et oui, pour Michel il existait encore des femmes jeunes ou moins jeunes pour qui l'amour n'était pas qu'un fantasme utopique, une invention délirante du plaisir, mais un bonheur puisque dans ce monde où l'amour n'existait plus vraiment que dans le rêve, c'est bien la fameuse notion d'amour pervers qui résumait leur grand bonheur. Elle rêvait d'une forte pénétration profonde, longue et inhabituelle, ainsi l'amour se révélerait très excitant pour cette amante adepte du sexe pervers. Confortablement installée dans un romantisme sexuel, cette jeune fille éprouva du plaisir à jouer la garce car elle avait envie de s'aventurer sur d'autres terrains, elle voulut coller son torse contre le corps de son partenaire et se sentir pénétrer plus crapuleusement pour jouir à outrance, le buste relevé elle voulut s'offrir à lui pour chasser les démons sexuels qui l'envahissaient. Soudain Caroline se positionna nue debout face au mur, les bras croisés, la tête entre ses bras, les jambes légèrement écartées afin que Michel puisse se placer derrière elle pour éprouver beaucoup de plaisir en la pénétrant puis atteindre l'orgasme en quelques minutes à peine, mais la vie sexuelle de cette jeune femme était toujours accompagnée de l'utilisation d'accessoires pour donner lieu à un décuplement du plaisir. Rien ne put faire l'objet d'une interdiction sexuelle pour cette jeune fille, puisqu'en général l'amour ne pouvait être frappé d'interdit quelle que soit sa pratique car elle évoquait à chaque fois sa liberté sexuelle. De manière à pimenter un peu leur rapport sexuel elle voulut jouer la gentille coquine, elle chercha la complicité de Michel pour favoriser leur étreinte amoureuse par des câlins de toutes parts sur leur corps en ébullition, une musique langoureuse en fond sonore leur donna envie de rendre leur relation bien plus excitante pour un délicieux orgasme. Loin des tentations de la rue entièrement réservées aux femmes honnêtes pour les protéger de la dangereuse mixité des gargotes, ces lieux mal tenus où l'on mangeait mal, ces endroits réservés aux personnes sans scrupules qui fréquentaient les prostituées, ils préférèrent s'adonner à la vie nocturne parisienne, restaurants branchés, cabarets et clubs de nuit, Caroline aima beaucoup parader dans ces lieux en essayant de se faire remarquer en prenant des poses avantageuses qui en disaient long sur son personnage de petite catin. Cependant, leur envie de s'éclater et de goûter aux réjouissances de la ville à l'occasion de cette dernière soirée à Paris fut une vraie opportunité pour se consacrer aux réjouissances des nuits parisiennes, des nuits qui s'articulaient autour des plaisirs malicieux, espiègles, canailles mais aussi très libertins. Cela évoquait son besoin d'épater Michel, mais aussi aller dans le monde de la nuit pour y rencontrer dans des lieux inattendus, des gens en tout genre pour y partager des moments originaux où les histoires d'amour, bien plus qu'une réalité, lui offraient souvent des opportunités selon ses goûts. Aussi, ses habitudes de vie salaces lui permettaient d'exister glamour, mais aussi de produire devant les hommes l'éclat de son esprit dévergondé. Montrer son personnage, faire voir aux autres ses parades de jeune fille romanesque, faire étalage de son corps divin pour montrer avec ostentation ou impudeur sa jeunesse coquine afin de plaire libre et débauchée, la ravissait. Elle aima beaucoup s'afficher pareille à une jeune femme séduisante et charmante, une demoiselle très sexualisée afin de produire des effets charnels chez les hommes. Jouir de son corps, de sa féminité, de sa liberté d'aimer l'amour et le sexe, mais aussi, de sa propre liberté de pensée et d'expression pour jouir de ses envies, de ses refus, avec son corps ou avec le corps de Michel, cela lui était indispensable. Michel avait une grande confiance dans son plaisir féminin puisqu'elle n'hésitait surtout pas à lui parler de sa sexualité sans complexe, elle écoutait ses propres envies mais aussi ceux de son partenaire, les mots doux qu'elle prononçait traduisaient sa grande tendresse. Au petit matin, Caroline et Michel décidèrent de rentrer en province, elle voulut laisser derrière elle l'image d'un amour puissant et féconde, un amour marqué par sa folle obsession pour les plaisirs charnels, mais la perte de son innocence et ses illusions perdues la rendirent incapable de défier l'avenir sans l'amour de son compagnon. Sa relation amoureuse avec Michel faisait partie du phénomène de ses aventures imparfaites, ce qui signifiait peut-être pour cette jeune fille avoir été victime de l'amour sans même qu'elle eût pu s'en rendre compte. Elle ne put refuser leur relation actuelle qui ne manqua pas de motivation ni de dynamisme pour lui permettre de s'épanouir dans les bras de Michel, surtout parce qu'il existait plusieurs raisons pouvant expliquer ce qui poussait cette demoiselle à adopter un comportement sans peur ni reproche, cela de manière à poursuivre leur aventure aurifère qui l'engageait et la motivait d'un fou dynamisme pour s'épanouir dans cette histoire. Cependant, cette jeune personne semblait être éprise exclusivement que de elle-même car l'amour qui l'entraînait ressemblait beaucoup à une souffrance inavouée puisque son objectif était de parvenir à s'enrichir avec leur butin avec ou sans Michel. À long terme, leur situation aurait pu avoir une tendance de couple, voire d'une vie sérieuse car son admiration pour Michel qui était devenu son amour exclusif l'obsédait, surtout parce qu'elle n'était vraiment pas coupable de son comportement, de son exagération de ses désirs sexuels même exagérés, elle gardait l'espoir d'être aimée pour la vie par ce garçon qu'elle aimait. Largement influencée par le fait que l'amour loin de Michel dans ses folles relations sexuelles aurait été quelque chose de complètement impossible à vivre, elle envisagea une pratique sexuelle un peu inhabituelle, un lâcher-prise intense, pour déclencher sans aucun sentiment de honte, un amour très obscène. Pour faire face à sa peur d'un dédoublement de personnalité chez son amant et ne voir en lui qu'un simple aventurier, elle accepta que son partenaire puisse la voir dans la vie de tous les jours comme une petite catin, une fillette qui ne contrôlait plus rien de l'amour pour prendre ou donner du plaisir, mais qui cherchait à incarner sa sexualité en qualité de femme émancipée, fut cela un vrai défi pour cette jeune femme. La sexualité de Caroline un peu bridée, n'était autre que l'héritage de son éducation auprès de son grand-père qui l'avait élevée, mais c'était aussi et surtout pour cette demoiselle l'envie d'avoir une sexualité libérée et émancipée. Dans ses paroles et ses actes, elle était toujours une brillante jeune femme libre et indépendante, bien que son envie de soumission au sexe pervers n'était pas visible, ce fut pour elle une passion qu'elle ne manifesta que dans les bras de Michel. Le problème sous-jacent fut cette envie de rapport de force dans la construction de cette nouvelle vie amoureuse qu'elle menait auprès de Michel, cet homme dominant sur cette jeunette assujettie à son bon vouloir qui développait souvent un sens critique sur leur relation qui n'était déterminé à l'avance que par leur butin et rendait leur grand amour aléatoire, confus et vague. Elle lui exclama tout de même, « Tu me demandes d'être une femme docile et amoureuse, mais j'ai envie d'être ton seul amour. des paroles qui visaient à mieux se connaître, mais surtout mieux s'accepter, afin de dépasser la crainte de voir s'achever leurs folles relations amoureuses. Cette jeune courtisane libertine était très ouverte pour parler de sexualité sans aucun jugement, à aucun moment elle ne ressentait de la honte puisqu'elle ne craignait surtout pas être parfaite, ni indigne de n'être aimée que pour son corps de poupée jolie et gracieuse. Le besoin d'amour qu'elle ressentait dans son corps et son esprit s'expliquait alors facilement par son usage du sexe pour exister auprès de Michel. Parfois, elle parvenait à se libérer des griffes de l'amour très coquin de son compagnon pour adopter un comportement d'aventurière, de chercheuse de trésors, même que cette nouvelle tendance téméraire la rendait encore plus désirable aux yeux de Michel. Cependant, Caroline n'était plus concentrée sur le présent, il s'agissait pour cette aventurière de tracer son chemin vers la récupération de l'or de la caverne avec ou sans Michel, malicieuse et vive dans son choix, sans méchanceté, elle chercha à user de moyens détournés pour récupérer la plus grosse part du trésor, mais pour cela il lui fallut s'armer de beaucoup de prudence face à son vieux compagnon qui depuis quelque temps avait perçu un changement dans le comportement de Caroline, surtout lorsqu'il évoquait les richesses de leur découverte. Elle s'interrogea sur sa tromperie envers son grand amour pour cet homme qu'elle vénérait plus que tout, mais elle comprit aussi que sa manœuvre frauduleuse lui permettrait de devenir riche pour mener sa vie de libertine. À présent, elle n'était plus qu'une jeune et jolie comédienne tenant des rôles d'amoureuse pour expérimenter ses talents d'adolescente canaille dans une organisation d'action rapide, ferme et volontaire pour s'établir et ne pas mourir à la fleur de l'âge sans avoir connu l'abondance, l'opulence de biens matériels, mais aussi, l'aisance de moyens financiers, la fortune. L'ensemble de ses facultés de conception d'adolescente voyoute l'a poussée à la bonne compréhension de son futur destin, mais aussi dans un enchaînement d'événements considérés comme inéluctables pour gagner la partie dans l'action très délicate qui s'opposait à la soumission passive de cette aventure où les forces du mal avaient leur place. Leur voyage de retour vers l'Auvergne au domicile habituel de Caroline ne produisit aucun événement qui aurait pu forcer les deux antagonistes à faire des raisonnements intrigants, tenir des propos extravagants pour étaler les vérités qui trottaient dans leur tête. Dans la petite maison de la jeune fille régnait une atmosphère de turbulence perturbant, chacun d'entre eux restait pensif en se regardant soupçonneusement sans avoir vraiment confiance en l'avenir car chacun d'entre eux faisait attention à quelque chose de non dit, mais sans révéler son secret au grand jour. Devoir en parler ouvertement sans détour était pour cette fille signer les prémices de sa mort car elle savait que Michel ne reculerait devant rien pour garder sa part du butin. Réfugié dans sa chambre, il fallut à Caroline étudier en secret son expatriation en Amérique car l'Amérique du Sud était le coin de paradis où elle voulut vivre de sa fortune, dans ce continent, qui possédait mille merveilles qui n'attendaient qu'à être explorées, cette destination l'attirait depuis toujours car elle avait soif de dépaysement et d'aventure, voilà pourquoi elle voulut s'y installer, vivre en Amazonie ou dans une ville coloniale, riche en couleurs, de cultures et d'émotions. Cela motive ses espoirs. Retranché sur lui-même, Michel pensa que devoir construire une vie de couple avec cette jeune fille plus jeune que lui d'une vingtaine d'années ne serait pas pour lui un long fleuve tranquille, certaines problématiques liées à la perversion sexuelle de Caroline auraient fait battre de l'aile dans son existence d'aventurier, peut-être même que cela aurait causé leur séparation amoureuse. Les commentaires sur leur futur parcours que Caroline adressait à Michel restaient très blessants et manquaient d'intérêt pour poursuivre leur aventure de chercheurs de trésors en parfaite confiance l'un envers l'autre, pourtant leur point commun de leur association reposait sur le trésor aurifère de la grotte, mais il ne s'agissait pas là de la seule raison qui avait poussé la jeune femme à évoquer dans son esprit une fuite en solitaire pour jouir de cette fortune léguée par son aïeux puisque. Toutes ces richesses, elle les jugeait légitimes. Michel éprouvait une sensation douloureuse en voyant sa partenaire qui à présent ne parlait que d'elle-même, elle manquait d'humour et ne pouvait vraiment communiquer correctement sans avoir pour motif une rupture entre la réalité et ses mauvaises pensées. Les problèmes sexuels de cette chippie qui se conduisit comme une fille de mauvaise vie restaient la principale raison qui l'avait poussée à prendre le pas sur tout son grand besoin de vivre l'aventure auprès de cet homme, mais elle savait aussi que vivre sans lui évoquait une grande solitude amoureuse. L'amour fou qu'elle vivait avec ce garçon était en tout cas ce qu'elle avait toujours rêvé, mais à vrai dire cette jeune et belle amante avec qui il avait régulièrement des rapports sexuels très fougueux, n'était à ses yeux qu'une petite fille qu'il ne considérait surtout pas comme une femme avec qui il aurait pu mener une belle aventure ou une vie de couple. Leur relation ne put être durable car elle impliquait un engagement à vie, faire l'amour ensemble cela le motivait mais devoir transformer cette jeune personne en amour régulier en s'assurant qu'elle n'eût rien d'autre en tête que son engagement amoureux lui parut difficile. Avant même d'attaquer la poursuite de leur aventure, il leur fallut donc discuter franchement de leur projet. Caroline, l'air anxieuse, lui dit « Qu'attends-tu de moi précisément? Qu'attends-tu de notre amour? As-tu compris qu'il ne s'agit pas de se disperser derrière notre trésor ?» Il sembla tout à fait évident pour Michel de tirer au clair les espoirs qui trottaient dans la tête de Caroline. Elle lui rappela tout de même les délicieux moments charnels qu'ils partagèrent. Cette demoiselle laissa alors éclater ses émotions et sa sensibilité pour enjoliver la scène. Par ailleurs, Michel lui assura tout de même bienveillance, compassion, courtoisie et respect. Michel ne voulut surtout pas être traité comme un sextoy ni encore moins comme l'objet de tous ses désirs charnels, il resta vigilant, surtout parce qu'il ressentait dans le regard de Caroline une manifestation amoureuse trompeuse, aussi ce fut une bonne raison pour ne pas accorder à Caroline une confiance aveugle, d'autant plus que cette relation il ne la concevait pas comme exclusive dans son aventure trésorière, ce qui signifiait que leur association pouvait être rompue sans doute si ce partenariat cachait une malice. Fut cela pas du gain ou le charme qu'employa Caroline pour le persuader d'entreprendre la récupération du butin, car Michel au volant de la fourgonnette sembla être galvanisé à l'idée d'en finir avec cette aventure trésorière et les problèmes amoureux qui s'y rattachaient. Ils trouvèrent dans l'un des recoins de la grande pièce mal éclairée, 5 lingots d'or et plus de 1000 pièces d'or frappées à l'effigie d'un chef gaulois. Ils estimèrent moralement la valeur de cette première découverte à environ 100 000 euros. Ils trouvèrent aussi plusieurs objets historiques ayant appartenu aux occupants de la grotte. Il s'avéra que ces nombreuses valeurs aurifères devaient séjourner dans cette grotte depuis plusieurs siècles. Caroline découvrit entre deux murs de terre, une cache avec des linges en toile brute qui contenaient des pépites d'or en vrac, alors que Michel balayait le sol de son pied droit, en bordure d'une petite excavation, non loin d'un petit dépôt de cendres, il fit une bien belle mais troublante découverte. En voyant l'éclat doré des poussières, la curiosité étant la plus forte, il s'agenouilla pour saisir cette poudre qui ressemblait à de lumineuses météorites. La couleur dorée et luminescente les rassura car sans être des spécialistes en chercheurs d'or, les deux associés comprirent immédiatement l'importance de cet amas de poudre d'or. Très surprise par toutes ces découvertes de métal jaune, Caroline remballa son rêve espiègle de s'enfuir avec ce butin pour changer de vie là-bas aux Amériques. Elle comprit bien vite qu'il lui serait impossible de négocier ce trésor à la vente, d'autant plus qu'elle n'avait pas les ressources nécessaires pour cette transaction. Il ne lui restait donc plus qu'à se contenter de cette providence d'argent lorsque son compagnon l'aurait marchandé à la vente. L'imagination de Caroline avait fait plus de découvertes que ses yeux. Sa vraie découverte ne consista non pas à changer d'horizon, mais à changer le regard qu'elle s'était autorisé afin d'éprouver quelque chose qui ne soit pas une projection de son imagination un peu trop fertile. Aussi son esprit dut être libre de manière à être capable de voir ce qui pouvait encore la rattacher à son amoureux sans s'encombrer à chaque fois de sa vision de jeune catin aventurière. Les deux acolytes s'empressèrent de charger le fourgon que Michel avait stationné à une centaine de mètres d'un vague chemin qui les avait conduits au petit cours d'eau proche de la grotte. Ils n'eurent aucun abattement ni fatigue dans leurs efforts, leur seul embarras fut la souffrance, l'éreintement, dans leur labeur qui les fit suer dans leurs efforts, mais aussi des sensations physiques et morales très pénibles dans ce travail de titan. Les jours suivants, les nombreux marchands d'orfèvres de l'élite parisienne que Michel rencontra, malgré leur volonté de se limiter qu'à une expertise de ce trésor aurifère, voulurent commercer l'or de la grotte, mais cette élite bourgeoise de Penhem évidemment, cherchèrent à savoir et se renseigner sur la qualité de l'or qui devait être monnayé en argent, mais aussi sur la réelle provenance du métal jaune. En effet, le seul corps de métier autorisé à vendre ou acheter de l'or à l'exclusion des objets dorés, trop souvent sujets à des fraudes, étaient les marchands d'orfèvres. Caroline et Michel n'eurent pas le choix pour vendre leur trésor si ce n'est que l'offre des magnats parisiens du business du métal jaune. Ils durent accepter l'offre de rachat proposée par l'argentier car la législation pour le paiement avait changé depuis quelque temps. L'ensemble des paiements se faisait à présent exclusivement par chèque ou virement bancaire car le paiement en espèces était devenu strictement interdit. Cependant, en toute discrétion et confidentialité, Michel demanda à être payé en espèces. Voilà pourquoi vendre leur or sans payer la taxe sur les métaux précieux obligea Michel à faire de grosses concessions sur le prix de vente. La vente se fit à perte car ils reçurent pour tout solde dans leur situation de personnes qui gardèrent secrète leur identité, la moitié de la valeur du prix officiel du métal jaune. Puisque le développement du contrôle du commerce de l'or sur les marchés parisiens avait contraint, comme on peut se douter, Michel à faire des concessions sur la vente de leur butin car l'or faisait l'objet de beaucoup de convoitises, aussi, les marchands d'orfèvres furent placés depuis bien longtemps sous l'inspection du fisc. Michel savait que tout objet d'orfèvrerie vendu devait être enregistré, en indiquant son prix et le métal utilisé, voilà pourquoi ils gardèrent l'anonymat sur leur vente qu'ils durent céder à moitié prix. À présent les deux aventuriers se retrouvèrent encore plus riches. Caroline, cette jeune personne se tenait au courant du chic glamour parisien, elle aimait suivre les dernières tendances de la mode des gens qui fréquentaient les lieux les plus branchés de la capitale, généralement de façon ostentatoire pour s'y établir un jour prochain. Sa vertu n'était qu'une variante moderne du pharisaïsme via hippie, elle rêvait déjà d'une possession très excessive de vêtements, de bijoux et d'un mode de vie émancipé à outrance, elle détailla même la consommation de ses propres plaisirs de la chair dans un esprit extrêmement moqueur, narquois et acerbe, mais avec une vitalité qui avait du mordant. Cette séance où il dut écouter et subir les fous caprices et les mots exprimant spontanément les sentiments de luxure et les émotions de sa jeune amie l'obligea à prendre du recul, il se retira dans la chambre pour réfléchir à la suite à donner à leur aventure. Devenu solitaire, il rechercha des réponses subjectives pour apporter à son questionnement, sa problématique, en retour des réponses de qualité qu'il se posa, telles que avait-il vraiment envie d'aimer et vivre avec cette petite catin, est-ce que son rêve de bonheur, reposait sur cet amour ou sur la richesse qu'ils possédèrent, il se demanda même ce qu'il préférait essentiellement chez cette jeune femme, fût-ce son indulgence pour les fautes qui sillonnèrent sa vie ou l'amour qu'il consacra à cette jeune femme qui croisa son chemin. Ces questions posées par sa conscience étaient des interrogations auxquelles il ne souhaitait peut-être pas répondre, mais elles se prêtaient dans leur grande majorité à une remise en cause de son comportement vis-à-vis des femmes et de l'amour. L'observation de sa propre conscience s'apparenta alors à une vraie autocritique psychologique pour faire un examen sur le tracé de son parcours, une sorte de bilan pour approfondir la connaissance de lui-même. Le sérieux et l'humilité de son questionnement l'inspirèrent bien sûr à se confesser, ses vérités lui permirent de dévoiler ses goûts pour les plaisirs de la chair et leurs aspirations très coquines, surtout avec cette jeune et jolie catin. L'amour fou il s'y était essayé à plusieurs reprises depuis son adolescence, mais son histoire ne pouvait surtout pas retenir que les seuls plaisirs du sexe et de l'amour qui furent sa seule raison de lover boy, car au cœur d'une des plus belles périodes de sa vie parisienne, l'histoire qu'il connut lorsqu'il rayonnait encore des flammes de l'amour fut un paradis. Cette visite secrète et insolite dans le fond de sa conscience lui permit de redécouvrir cette époque flamboyante qui cachait les plus beaux secrets de sa vie amoureuse, cette remise en cause lui fut émouvante et salutaire. Caroline vint à sa rencontre, assise contre lui sur le bord du lit, elle voulut s'abandonner à lui, mais Michel lui exprima toute son indignation face aux propos, des aveux incomplets qu'elle lui avait tenus auparavant, il prit ses aveux comme une cessation de leur aventure, de leur amour. L'ensemble du butin de la grotte, mais aussi des monnaies et poudres d'or que son grand-père avait récurrent dans sa maisonnette furent aussi très vite vendus à des charlatans, des personnes qui surent bien profiter de leur crédulité pour acheter leur métal jaune à un prix dérisoire. La plus grande part de leur vente fut payée en cash de la part des acheteurs qui ne voulurent comptabiliser ces valeurs sur leur registre afin de falsifier, truquer, tricher sur leur compte pour payer Michel. Il leur fallut diviser en deux parts égales cet argent, la jeunette s'imagina déjà ce que cette bonne fortune lui permettrait d'entreprendre, d'autant plus que cette fortune était entièrement défiscalisée. Puis, son calme retrouvé, elle se demanda comment tirer le meilleur parti de cette aubaine. C'est là que les choses se compliquèrent pour elle, car les modalités frauduleuses de l'attribution des fortes sommes qui en résultèrent de la vente du trésor perturba son raisonnement. Néanmoins, rien ne put pour autant autoriser Caroline à considérer ses trouvailles comme siennes puisqu'elles provenaient de la grotte, car sachant que le propriétaire des lieux des volcans d'Auvergne était l'État, cette autorité pourrait la frustrer de tout bénéfice s'il parvenait à prouver que ce métal jaune et les objets appartenaient au patrimoine. Son questionnement resta sans réponse, elle se rassura en revenant auprès de Michel. En cette belle et douce soirée d'été, elle fut invitée par Michel dans le cadre de son addiction à l'amour pervers, ce fut même une folie douce pour cette jeune fille qui lui confia sans filtre ses joies dans ses fous amours charnels, des joies qu'elle entretenait comme un rituel avant de se livrer à des scènes sexuelles très cochonnes. Ses lèvres pulpeuses, ses attitudes très dévergondées et ses satanées paroles qui recherchaient le rapprochement sexuel s'accompagnaient de gestes très vicelards, des gestes familiers aux entraîneuses de bordel, mais tout cela excita Michel. Cependant, il existait de nombreux signaux d'alarme permanents pour reconnaître chez Caroline son comportement obscène et nuisible pour lui dans ses relations qu'elle disait amoureuses. Elle se mit à parler de l'amour à n'en plus en finir, et exprima un sentiment de mal-être en mettant à nu le fond de ses fantasmes sexuels dans un comportement foldingue. Ses attitudes débauchées envers son partenaire produisaient des conséquences négatives car ses folles relations amoureuses interrogeaient son compagnon, il lui fut crucial de garder un œil sur les exigences sexuelles potentiellement très toxiques de sa jolie copine en particulier lorsqu'elle entretenait des relations abusives très malsaines, ses attitudes de petite catin devenaient problématiques mais aussi néfastes pour continuer leur parcours d'aventurier. La tromperie dans ses relations amoureuses ne fut pas toujours facile pour cette jeune fille, les signes d'angoisse qu'il repéra dans les dialogues de Caroline lui mit la puce à l'oreille car cette catin était bien trop intelligente puisqu'il apparaissait le plus souvent de manière subtile qu'elle préparait longuement et en cachette un projet malin pour amasser la plus grande partie de leurs finances, elle voulut prendre possession de tout ou de la plus grande partie du butin. Pour cette demoiselle dont les plaisirs de l'amour étaient entrés dans son langage courant, son esprit libre dont le regard canaille sur les hommes ne l'effrayait plus et ne répondait plus aux codes sociaux de son époque et en faisait un personnage aussi infréquentable que séduisant. Cette fascinante jeune fille dotée d'une perversion sexuelle abusive dans laquelle son plaisir de la chair fut avant tout la recherche de jouissance à travers la souffrance de Michel son partenaire, était une marginale débauchée. Cette jeune femme qui cherchait à produire le renversement de l'ordre social dans l'amour et les plaisirs de la chair en clamant son émancipation, ne manqua pas d'ardeur pour caractériser sa perversion, sa bestialité dans laquelle la tendresse n'avait pas sa place. Bien que très dérangée mais fort brave, cette demoiselle n'avait pas peur du danger, courageuse, cette jeune personne obligeante et bonne, aimait beaucoup se retrouver en relation amoureuse avec Michel car son cœur pourrait la tromper mais son erreur serait si douce qu'elle le préférerait toujours au bonheur le plus parfait. Convaincue par son identité de donzelle qui ne dévoilait pas toujours ses propres vérités, cette jolie catin sut de tout temps se servir de la comédie de l'amour tragique pour envenimer ses funestes plaisirs. Cependant pour Michel, la parenthèse de ses relations amoureuses avec Caroline constituait une étonnante exception car cette mousmée avide de tous les fantasmes, de toutes les perversions, hantait les jours et les nuits de Michel depuis plusieurs mois, aussi son parcours en bonne place dans cette aventure trésorière n'échappa en rien dans la quasi-totalité de sa recherche des plaisirs auprès de Caroline. Il savait très bien qu'elle ne négligeait jamais les préliminaires pour l'attirer à elle, ses caresses, ses baisers mais aussi les mots doux qu'elle lui formulait étaient indispensables pour lui faire grimper la température et décupler d'agréables sensations pour lui faire durer le plaisir. Comme dans toutes leurs relations amoureuses, leur complicité fut essentielle mais Caroline n'hésitait jamais à guider Michel, en lui précisant ce qui lui plaisait bien avant tout pour éprouver un grand plaisir sexuel, aussi l'importance des câlins dans leur couple au fur et à mesure de leur contact physique endiablé, les animait de folles passions. Michel n'aimait surtout pas faire l'amour de la même façon chaque jour, il préférait leurs folles relations très perverses qui se révélèrent très excitantes pour ses amants adeptes du sexe, un amour qui exigeait tout de même une certaine endurance pour prendre de grands plaisirs, car leurs pratiques sexuelles dévergondées étaient source de beaucoup de passion pour atteindre l'orgasme. Aussi leur grand amour fou constituait une composante courante de la vie sexuelle surtout pour cette jeune femme, car le plaisir pour cette jeune fille reposait essentiellement sur la stimulation de ses parties intimes féminines, cela lui permettait alors d'atteindre l'orgasme rapidement et stimuler l'ensemble de son appareil génital pour un plaisir intense. Les doutes s'étaient installés entre eux, il lui fut parfois même difficile de bousculer Caroline qui n'avait plus envie de discuter parce qu'elle ne trouvait plus les mots pour demeurer tranquille, surtout face aux décisions qu'elle envisageait de prendre pour réaliser sa fuite vers une autre vie. Par ailleurs, cette jolie jeune femme n'osa pas avouer à son compagnon sa décision, or, il lui fut tout à fait possible de se stimuler pendant un rapport sexuel afin de trouver la force de dévoiler ses intentions sans la peur de donner de mauvaises idées à Michel. Lorsque Caroline avait l'impression qu'elle pouvait presque finir les phrases de Michel, amour ou amitié, comment aurait-elle pu savoir si elle plaisait encore à cet homme en un seul regard interrogatif pour faire durer leur couple, est-ce que la séduction aurait-elle suffi pour la convaincre, comment savoir si elle lui plaisait toujours car sur le visage de ce garçon, les signes de sa déception ne trompaient personne, mais lui avait-il vraiment fallu se fier à sa première impression? Cependant, la forte sensualité ainsi que la puissance décisive de ces instants d'amour partagés avec Caroline, il les avait empruntés au vrai bonheur, ils étaient devenus des moments suspendus, à leur ivresse sexuelle, ils furent de magnifiques moments très explosifs et uniques, cela motiva Michel pour croire encore au bonheur. L'amour pervers faisait partie des fous désirs secrets les plus courants chez cette jeune demoiselle, elle passait bien souvent de ses fantasmes à la réalité, elle expérimentait le sexe dans des rapports érotiques pour ressentir le besoin d'exister, mais aussi pour assouvir sa passion sexuelle quelles que soient ses envies et son choix pour passer à l'acte sans être coincée. Caroline voulait vivre une sexualité haute en couleur chargée d'émotions pour ressentir à quel point cela pouvait la stimuler sans compliquer sa relation de couple avec Michel et laisser place au plaisir. Pour faire l'amour avec son homme, la douceur n'avait pas toujours sa place car elle misait d'abord sur la sensualité de l'amour cochon pour jouir autour de son plaisir féminin, ses cris de joie et de bonheur lorsque Michel éjaculait, décuplait son plaisir de jeune fille atteinte de perversion très salace. Elle ne cachait jamais sa joie des plaisirs de la chair puisqu'elle était très réceptive aux caresses de Michel sur ses zones érogènes, cela la stimulait afin d'appréhender au mieux ses envies de jouissance en gardant ses propres fantasmes. Même si elle était persuadée qu'elle avait bien fêté ses jours et ses nuits à Paris, Caroline proposa à Michel de songer à un petit extra très coquin, une relation amoureuse qui s'annonçait très festive côté sexuel. Pour faire plaisir à Michel, elle lui proposa un florilège de bons plans immanquables pour faire le plein de sensations dans les plaisirs de bien-être et de volupté, espiègle. Quels que fussent les désirs de Michel, elle se rendit capable de tout lui partager de son corps en chaleur pour le satisfaire, elle voulut tout essayer car elle était aussi une consommatrice régulière de sextoys pour s'offrir le plus de plaisirs et attirer son amant lui aussi adepte de jeux sexuels très pervers qui lui permettraient d'accentuer son excitation sexuelle. Elle stimulait ses fantasmes pour dynamiser ses actes sexuels très mobilisateurs, tout ce qui pouvait l'exciter était énergisant, cela l'aidait à booster ses désirs sexuels, rien ne lui était répulsif en amour car les plaisirs charnels la réconfortaient. Ses massages sensuels, son contact visuel au sexe ne se résumaient pas uniquement au plaisir de la chair pour stimuler le désir chez Michel car ses câlins associés à son contact physique augmentaient de fous désirs sexuels chez son amant. Caroline aimait beaucoup ses jeux très crapuleux, pervers et morbides pour rendre fou son amoureux, elle l'embrassait dans le cou, sur les épaules en mordant sa peau brûlante de la fièvre d'amour. Dans ses scénarios érotiques, ses plans cul n'avaient vraiment rien de romantique puisqu'elle restait toujours concentrée sur les performances sexuelles de Michel, aussi son besoin de contrôler le plaisir de son amant durant l'acte sexuel caractérisait sa folle perversion. Plutôt que de vraiment se lamenter sur le devenir de leur destin futur, elle profita de ces moments qui montraient sa perversité. Voilà pourquoi son comportement malsain s'expliquait pour la simple raison qu'elle pouvait assurer la chance d'être devenue riche avec l'argent du trésor de son aïeuse et ainsi pouvoir se sentir libre et indépendante. Elle voulut assumer son corps et être assez performante pour donner du plaisir à son partenaire et se sentir possédée par le malin, ce diable qui la guidait lorsqu'elle faisait l'amour. Le concept du bonheur pour Caroline reposait sur la face cachée des nuits parisiennes. Elle savait que son argent devrait l'aider à être conviée à des moments uniques dans des lieux atypiques, généralement fermés aux non-avertis, des lieux insolites et confidentiels de la vie nocturne parisienne. Aucune autre discipline ne put définir la magie audacieuse de l'amour qui l'habitait, elle ne parvenait plus à contenir son excitation pour éprouver du plaisir dans cette histoire de vie parisienne où elle pourrait alors vivre une sexualité épanouie. Elle n'imagina pas les conséquences néfastes loin de Michel qui était son seul protecteur, elle avait une grande confiance en elle puisqu'elle n'avait pas peur d'être abandonnée. Par cet homme, à l'exception du trésor monétaire, elle ne voulut risquer l'inconnu dans des aventures incertaines, ni encore moins oser une fuite qui l'emmènerait dans des situations dangereuses pour renforcer, augmenter le plaisir d'être des partenaires fortunés possédant un capital fastueux, il leur fut essentiel. D'être sur la même longueur d'onde pour envisager l'avenir dans l'échange et la complicité, afin de prendre une décision difficile, bien que les deux partenaires se sentaient prêts à vivre également une vie de rentier, il leur était possible de continuer à faire le chemin ensemble de façon à partager le même bonheur, mais Michel douta de cette jolie catin. Les raisons ne manquèrent pas chez Caroline pour commencer une nouvelle vie de jeune femme émancipée, mais voulait-elle vraiment mettre fin à sa relation amoureuse abusive avec Michel? Elle cherchait tout de même à repartir sur de nouvelles bases pour mener une existence saine et heureuse, loin de son partenaire aventurier. Cependant, leur situation actuelle ne put répondre à leurs aspirations de liberté car chacun d'entre eux avait décidé de prendre un nouveau départ dans une autre vie. Quelles que fussent leurs raisons, ils cherchèrent à réaliser leurs rêves à condition de bien réfléchir à la question d'une séparation définitive de leur soi-disant couple d'amoureux, d'aventuriers. Leur motivation était bien déterminée, ils n'eurent point besoin de réfléchir attentivement pour trouver les raisons qui les encourageaient à recommencer une nouvelle existence. Leur désir de refaire leur vie fut tout à fait légitime. D'autre part, Michel désirait changer de vie pour échapper à des sentiments désagréables, des sentiments qui le rattachaient à Caroline, cette idée de se séparer de sa dulcinée ne l'aida pas à résoudre ses problèmes. Il savait aussi que ses folles émotions le suivraient partout où il irait et qu'il lui faudrait composer avec elle, avant de lui permettre de se lancer vraiment dans une nouvelle vie. Il examina tout de même l'ensemble des événements majeurs qu'il partagea avec la jeune fille, cela affecta profondément ses émotions, bien sûr certains événements qu'ils partagèrent le rendirent heureux, mais d'autres le plongèrent dans la réflexion car ils ravivèrent ses doutes. Malgré que ses facultés personnelles de lover boy furent probablement altérées, il lui fut préférable de temporiser avant de prendre une décision importante. Michel voyait le départ de Caroline approcher à grands pas, il était bientôt temps de prendre de nouvelles résolutions pour accepter son départ vers d'autres horizons, comme tous les hommes amoureux il ne voulait pas rater les joies qu'elle s'accordait dans ce nouveau départ vers une autre vie. Il commença par adopter une attitude de lover boy trahi, mais il lui fallut bien se l'avouer, il était toujours bien agréable de partager et de profiter de ces moments d'amour délicieux avec Caroline. Elle n'était pas emballée ou bien en manque, pourtant persuadée qu'un petit geste enchanterait sa moitié, Michel la serra fort contre lui en l'invitant à rester bien au chaud dans ses bras sous une bonne couverture pour plonger dans une agréable touche de bonheur ultime, et ainsi vivre de nouvelles aventures amoureuses. Dans leur relation de couple, d'aventurier ou d'amoureux, de nombreuses nuances agréables ou désagréables persisteront, c'est pourquoi il leur fut si difficile d'accepter la fin de leur amour mais aussi de savoir quoi faire de leur association, puis elle regarda son partenaire et elle se demanda pourquoi leur amour s'était-il envolé car sans aucun doute le fait qu'elle désirait vivre aux Amériques avec son pactole financier ne fut juste qu'une phase difficile à faire admettre à Michel. Leur relation amoureuse avait bien changé depuis qu'il avait compris son besoin de jeune aventureuse sexuelle, il s'était bien adapté à son amour qui lui avait toujours offert de nouveaux défis. Michel n'avait pas peur du changement ni d'être seul lorsque leur amour prit fin, il ne voulut pas lui faire du mal, mais il ne voulut pas non plus que la peine l'oblige à rester ensemble. La première phase pour sortir de cette relation compliquée dans laquelle l'amour fut le moteur de leur association de chercheurs de trésors fut de savoir reconnaître les signes qui avaient poussé Caroline à renoncer à leur amour, cela même si leur relation sexuelle endiablée leur était devenue une habitude, ils eurent grand mal à rompre leur amour tendre et naïf. Michel aurait aimé continuer à forniquer cette jeune catin parce qu'il ne savait pas trop comment vivre autrement. Il leur fallut tout de même vivre ensemble quelque temps, même s'ils n'eurent rien d'autre en commun que le sexe et le butin de la grotte, puis après le partage de l'argent en main, leur but atteint les enrichir, ils progressèrent pour prendre chacun son chemin et progresser dans l'échelle sociale, même le cœur blessé, l'histoire fit qu'ils vivaient heureux loin l'un de l'autre. Fin.